RFI, grand reportage. Céline Pellarin.
Des files d'attente interminables devant les supermarchés, les distributeurs de billets, des rayons, des pharmacies à moitié vides. Trouver des biens de première nécessité est devenu une course d'obstacles au Venezuela. Le pays est en effet confronté à la pire inflation au monde. Très dépendant de ses exportations de pétrole, il détient les plus grandes réserves mondiales. L'économie vénézuélienne décline depuis l'effondrement des cours du brut. Et la grave crise politique que traverse le Venezuela n'arrange en rien la situation. Si l'opposition accuse le président Nicolas Maduro de mauvaise gestion, le gouvernement, lui, pointe du doigt les grandes puissances, notamment les États-Unis, qui provoqueraient artificiellement pénurie et spéculation. À l'occasion des élections régionales qui se sont tenues le 15 octobre, notre envoyée spéciale Marie Normand a tenté de comprendre cette grave crise économique dans laquelle le Venezuela est englué. Elle s'est notamment rendue à Maracaibo, dans l'état de Zulia, à la frontière colombienne, un état stratégique riche en minerais et en pétrole. Il concentre 40% de la production du pays. Le Venezuela, face aux pénuries et à l'inflation, c'est un grand reportage de Marie Normand.
On n'en peut plus de cette file d'attente. Jusqu'à quand? On n'en peut plus de ce pays.
Une centaine de personnes patientent devant la préfecture de Maracaibo sous une chaleur écrasante. Linda Maria Govea attend depuis plus de 5 heures maintenant pour faire certifier des documents administratifs, le sésame, pour pouvoir quitter le Venezuela. Elle est née à Maracaibo, mais aujourd'hui elle veut rejoindre son fils en Colombie.
La qualité de vie ici s'est détériorée. Je suis professionnel de santé, je suis chirurgien, dentiste, et pendant 15 ans j'ai eu suffisamment de patients. Aujourd'hui je n'ai plus personne. Ma patientèle a émigré, surtout les jeunes, ou de jeunes parents qui veulent un meilleur futur pour leurs enfants. Je ne vois aucun espoir dans ce pays. J'ai vraiment mal pour mon pays.
Principale raison avancée par ces candidats à l'exil, les pénuries et l'inflation qui dépassera les 650% cette année selon le FMI. Dans cette même file d'attente, un homme qui préfère rester anonyme est payé par d'autres pour faire la queue. Il trimballe avec lui un sac rempli de certificats de naissance.
Ici, tu gagnes 20 000 bolivars par jour. Tu vas ensuite acheter ton pain. Chaque tranche te coûte 700 bolivars, donc 7 000 bolivars pour 10 tranches. Il ne reste déjà plus grand-chose de ton salaire, donc tout le monde veut partir.
Il y a ceux qui peuvent partir et ceux qui n'en ont pas les moyens. Nous nous rendons dans les quartiers est de Maracaibo avec des militants de Voluntad Popular, un parti de l'opposition. C'est à 2 heures environ de la frontière colombienne.
Ça, c'est le district d'Ildefonso Vázquez, une zone caractérisée par l'importance de sa communauté indigène, Wayuu. C'est aussi, comme vous pouvez le voir, la partie de la ville la plus délaissée.
Edwin Pérez Palmar est lui-même un Wayuu. Il vit dans ce quartier où s'entassent les poubelles et les véhicules désossés. Ici, le taux de criminalité est très élevé, tout comme le taux de malnutrition. Maricela González porte dans ses bras l'un de ses 7 enfants, un bébé au ventre gonflé par les parasites. Son aîné de 14 ans est enceinte de 8 mois. Et Maricela assure que sa famille ne fait plus qu'un seul repas par jour.
Mon mari n'est pas là, il est loin. Parfois, quand il se souvient, tous les 2 ou 3 mois, il me transfère 200 000 bolivars. Mais la nourriture est très chère. Le kilo de riz est à 18 000 et j'en utilise 1 kilo par jour pour toute la famille. On mange uniquement du riz. Et je fais la cuisine au bois parce que je n'ai pas suffisamment d'argent pour acheter une bouteille de gaz.
Selon la Fondation catholique Caritas, la moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition dans cet état de Zulia. Beaucoup plus encore dans ce district, assure Nelly Palmar, la coordinatrice indigène de Voluntad Popular.
Ici, 85% des enfants sont victimes de malnutrition. C'est une douleur de voir leurs cheveux qui jaunissent. Avec le salaire minimum, on a à peine de quoi s'acheter 1 kilo de riz, 1 de farine et 1 de sucre.
Encore faut-il réussir à trouver ce riz, cette farine ou ce sucre. Dans les magasins au prix contrôlé par l'État, on ne peut acheter que certains produits et en quantité limitée. Une partie du stock se revend au marché noir. Dans les supermarchés classiques, les prix se sont envolés et là encore, certains produits manquent à l'appel. Des difficultés d'approvisionnement qui touchent presque toutes les classes sociales et l'ensemble du pays. Dans cet état pétrolier de Soulia, les entreprises souffrent aussi de l'inflation et des pénuries. José Paez travaille dans un centre d'échographie.
C'est difficile de diriger une entreprise, n'importe quel type d'entreprise, parce qu'on ne produit rien au Venezuela. Donc on doit trouver des dollars, des devises, pour acheter à l'étranger ce dont nous avons besoin pour travailler.
Et depuis l'instauration d'un contrôle d'échange en 2003, il est devenu beaucoup plus compliqué de se procurer ces précieux dollars.
Cette partie, c'est, je ne sais pas comment on dit, l'area d'espera. C'est comme... la salle d'attente, exactement.
José apprend le français depuis un an. Il a l'espoir, lui aussi, de rejoindre le Canada dans quelques mois.
C'est de le gel.
Pour mettre sur le ventre de la future mère avant de faire l'échographie.
Exactement, c'est pour cela. Et ce produit, c'est indispensable. Et aussi, ce produit, c'est le papier photo.
Et ça, c'est dur à trouver aussi?
Oui, c'est $1. Ça vient des États-Unis ou de la Chine, mais ici, il n'y a pas. Et c'est comme ça qu'on travaille ici.
Tout ça, ça vient de l'étranger.
En dollars. Oui. Si tu ne trouves pas des dollars dans le marché noir, c'est difficile à travailler. C'est notre produit.
Les gants,
oui. Si je crois que c'est l'unique produit qu'on peut acheter maintenant, ici, avec des bolivars.
Un dollar revient à 3000 bolivars environ au taux officiel, 30 000 bolivars au marché noir, qui est devenu, selon José Paez, le taux de référence de la plupart des produits.
J'ai 25 ans, donc j'ai quasiment toujours connu la présidence d'Hugo Chavez. Je n'étais pas d'accord avec sa politique, mais au moins le pays fonctionnait. Depuis sa mort, le déclin a commencé. Combien faudrait-il que je gagne pour m'acheter une voiture? Combien faudrait-il que je gagne pour m'acheter un appartement et quitter mes parents? C'est impossible. Donc l'idée fixe des jeunes aujourd'hui, c'est de finir leurs études, comme ils le peuvent, et de quitter le pays.
Partir, parfois aussi pour mieux se soigner. Dans les hôpitaux, les médecins assurent manquer de tout, de seringues, de coton, de médicaments. Candidat malheureux au régional dans l'état de Vargas, l'opposant José Manuel Olivares est médecin de formation.
Tous les hôpitaux du pays ont des patients sur liste d'attente. On ne trouve plus 75 à 80% des antibiotiques. Aujourd'hui, le Venezuela a de nouveau des cas de diphtérie, alors que la maladie avait été éradiquée. Si ce pays avait quelque chose pour lui, c'était bien son système de santé. Nous avons aidé l'Amérique latine à lutter contre la malaria. On est à l'origine également de progrès en matière de chirurgie, de médecine interne. La bonne chose, c'est que tout est déjà ici. Il faut juste du changement, retrouver notre système de santé.
Alejandro Peña, lui, est pharmacien à Maracaibo. Il a vu le vent tourner il y a 2 ans environ. Il fait ce qu'il peut aujourd'hui pour pallier ses problèmes d'approvisionnement.
Par exemple, soudainement, pendant un mois, vous avez beaucoup de médicaments contre l'hypertension, mais vous ne trouvez pas d'insuline. Ce serait faux de dire qu'on ne trouve plus de médicaments au Venezuela. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne les trouve pas avec la même facilité et pas dans les mêmes quantités qu'avant. Et résultat, ce qui est triste, c'est que quand mes patients arrivent enfin à trouver leurs médicaments, ils n'ont pas les moyens de se les payer.
Beaucoup désormais font appel à la solidarité sur les réseaux sociaux. Sous le hashtag Servicio Publico, des messages fleurissent, par exemple sur Twitter, pour trouver au plus vite des antibiotiques ou encore un médicament utilisé contre le cancer. Face à ces pénuries, l'opposition dénonce l'échec du modèle économique chaviste. L'ancien numéro 2 de l'État de Soulia, Giovanni Villalobos, avance lui une autre explication. Ce haut responsable du PSUV, le parti de Nicolas Maduro, rappelle les propos du président américain Barack Obama en 2015, selon lesquels le Venezuela constituait, je cite, « une menace extraordinaire pour la sécurité des États-Unis ».
Ça nous a paru vraiment ridicule et cela a même fait rire beaucoup de gens. Mais depuis, on a constaté une stratégie d'étranglement économique du Venezuela. Ils ont 7 bases militaires en Colombie pour comploter contre les défenses du Venezuela, pour mettre la main sur nos ressources pétrolières dans la région de Maracaibo, et puis aussi pour mettre un terme au projet socialiste bolivarien de Hugo Chavez. Alors je crois que cette guerre économique a eu des conséquences, mais notre peuple est tellement mature que même s'il a faim, il reste fidèle à la révolution bolivarienne.
Pasa hambre, seguirá siendo bolivariano.
Esta cuestión de guerra económica.
Una guerra económica por el sector empresarial.
Protestando contra la guerra económica que sufre Venezuela.
La guerre économique, un thème omniprésent dans les discours des autorités chavistes et des militants du PSUV.
Porque si no lo hace, quien queda desprotegido es la población, la clase trabajadora.
Une économiste proche du gouvernement en a fait un livre. Elle s'appelle Pascualina Curcio. C'est une habituée des plateaux télé. Nous la rencontrons à l'issue d'une émission sur la chaîne publique Venezolana TV. Ces pénuries sont programmées et sélectives. On ne manque pas de tout. Sont concernés surtout certains aliments, des produits d'hygiène et des médicaments très consommés. Par exemple, tous les aliments ne souffrent pas de pénurie. Manquent à l'appel les produits agro-industriels transformés par les grandes entreprises. Si on était face à une crise économique classique due à l'échec de notre politique révolutionnaire, eh bien, il manquerait aussi des fruits et des légumes.
Donc, si je vous suis, le modèle économique fonctionne bien, il ne faut rien changer.
Tous les modèles sont perfectibles, mais si la question c'est est-ce qu'ils fonctionnent ? Oui, ils fonctionnent. Notre modèle n'est pas à l'origine du problème. L'économiste montre alors des graphiques issus de son livre « La main invisible du marché ». Elle soutient que cette guerre économique a bénéficié à l'opposition vénézuélienne.
Depuis
2006-2007, nous remarquons que les pénuries augmentent juste avant les élections, alors qu'il n'y a pas de diminution de la production ni d'autres facteurs économiques. C'est une distorsion des mécanismes de distribution, pas de production. Et je pense que derrière ces pénuries, il n'y a pas que l'opposition vénézuélienne. Notre principal ennemi, c'est le grand capital. Et pas uniquement les présidents américains qui se sont succédés. Il n'y a pas de crise humanitaire ici, ni de dictature. Donc il n'y a aucune raison d'intervenir. Cette théorie de la guerre économique est rejetée par les différents partis de l'opposition, critiquée aussi par Carlos Larrazabal, le président de Fedecamaras, l'équivalent du MEDEF au Venezuela. Il table sur une baisse du PIB de 10 à 12% cette année.
Il y a une dizaine d'années, entre 2000 et 2006-2007, il y avait ici un parc industriel très fourni. Mais à partir de 2007, le président Chavez a commencé à mettre en place une politique très agressive d'expropriation et de confiscation d'entreprises. Et ces moyens de production privée qui sont passés aux mains du gouvernement ne produisent presque plus rien aujourd'hui. Et cela explique en grande partie les ruptures de stock que nous connaissons. Pour ce qui est de la distribution des biens alimentaires, le gouvernement contrôle absolument tout. Si tu veux vendre ta production à un client, tu dois aller sur Internet, demander la permission au gouvernement, ce qui peut constituer aussi un contrôle politique des entreprises que les autorités ne considèrent pas comme des amis sur le moment. Et puis, 50% de la production alimentaire revient automatiquement. Une partie alimente les CLAP, un système de subventions alimentaires, et le reste se retrouve sur le marché informel.
La spéculation, la contrebande, un phénomène particulièrement visible dans l'état de Zulia qui partage une longue frontière avec la Colombie. Direction les locaux de Vive TV, une chaîne de télévision à vocation culturelle fondée par le gouvernement vénézuélien.
Regarde ici, des bidons d'essence sous les yeux de la garde nationale et là, de la nourriture et du riz. Ce général-là, un menteur.
L'équipe de Vive TV commente des images tournées, selon elle, par des caméramans de la chaîne. La guerre économique. Le journaliste Jorge Luis y croit, mais il dénonce aussi la corruption de certains membres des autorités.
Toute chose produite au Venezuela, vendue en Colombie, peut te rapporter des gains astronomiques. On appelle ceux qui font ça les bachaqueros. Et ils vendent de tout. Par exemple, nous, à Vive TV, on a subi des vols de câbles téléphoniques qui sont vendus en Colombie. C'est une réalité tellement connue de tous. C'est évident qu'il y a des complicités. Non seulement il y a un laisser-faire à la frontière, mais aussi une complicité de certaines autorités pour que ce trafic puisse continuer.
Para que esa economía siga funcionando.
Pueblo y se ha activado un tipo de guarimba económica para someter.
Fin juillet, une Assemblée nationale constituante a été élue, institution composée uniquement de membres du parti au pouvoir et qui n'a donc pas été reconnue par l'opposition vénézuélienne ni par les grandes puissances occidentales. Pour les chavistes, au contraire, c'est une émanation du peuple. Ils estiment que cette assemblée qui doit réécrire la constitution est la clé de tous les problèmes du Venezuela. Aujourd'hui, ses membres célèbrent la large victoire de leur parti, le PSUV, aux élections régionales du 15 octobre.
C'est pour ça qu'on est tous là, tous les chavistes, tous les révolutionnaires, les citoyens ordinaires, tous ceux qui nous ont accompagnés sont là pour partager notre joie.
Celebrando, contento, con alegría.
Regulo Reina est membre de la Constituante. Il est foreur pour la compagnie pétrolière publique du Venezuela. Pour lui, il est urgent que son pays ne se repose plus uniquement sur son pétrole.
Nous travaillons à la diversification en ce moment, mais le plus important, c'est que notre peuple et des dirigeants qui se concentrent sur deux choses. D'abord, il faut continuer à dire aux gens qu'on va s'en sortir. Ça s'appelle l'espoir. Et puis, l'espoir, c'est aussi que nous sommes mûrs idéologiquement. Nous venons de remporter un triomphe éclatant lors des dernières élections. Cela montre au monde entier que notre révolution est en marche et qu'elle est arrivée à maturité.
Les travaux de la Constituante doivent durer au moins 2 ans. Alors en attendant, les habitants de Caracas s'organisent pour tenter de continuer à s'alimenter normalement. Dans le quartier aisé de Chacao, ils ont mis en place un marché solidaire où les commerçants s'efforcent de rogner sur leurs marges. Zulma Alvadaro a rempli 3 cajots de fruits ce matin.
Depuis quelque temps, on vient acheter nos produits ici. Parce que dans les supermarchés, c'est beaucoup trop cher. Ici, ça l'est un peu moins, ce qui explique cette file d'attente.
1 heure environ avant d'arriver à la caisse. Faire la queue dans l'espoir d'acheter ces produits de base, c'est de toute façon devenu le lot d'une grande partie des Vénézuéliens.
Par exemple, dans ce supermarché, les tomates, c'est 18 000 bolivars. Au supermarché, c'est 28 000.
Et vous avez acheté quoi aujourd'hui ?
Des fruits, ananas, papaye, orange, quasiment tout ce qu'il y a ici.
Juste à côté, José Leonardo Aldana est occupé à tailler un filet mignon de bœuf. Il avoue que sa boucherie a de moins en moins de clients.
Contrairement à ce que dit le gouvernement, on ne produit pas suffisamment. Et quand il n'y a pas de production nationale, il n'y a pas de commerce. Ceux qui investissent, ils ne vont pas le faire pour perdre de l'argent.
Est-ce qu'il y a des choses que vous ne vendez plus parce que c'est devenu trop cher ?
Oui, déjà on ne vend plus de porc parce qu'on ne s'en sort pas. Pour gagner l'équivalent d'un kilo, il faudrait que j'en vende 50. C'est pour ça que je ne vends plus de porc.
Luisa Ferro est à l'initiative de ce marché solidaire à Caracas. Elle s'inquiète de l'impact à long terme de cette hausse continue des prix.
Dans ce marché, la viande rouge, au début, on la vendait à 8 500 bolivars. Aujourd'hui, elle est à 50 000 bolivars. Et le marché n'a même pas un an. Résultat, eh bien, à un moment, les gens arrêtent de manger de la viande rouge, arrêtent de manger du poulet ou des tomates. Ils commencent aussi à chercher dans les poubelles. Et ça, c'est pathétique, parce que c'est un pays qui avait à manger pour tout le monde. Peu à peu, le manioc, moins cher, a remplacé le riz dans les assiettes. Mais il n'a pas les mêmes propriétés nutritives que le riz. Et ça, c'est vraiment déprimant. Parce que ceux qui en souffrent le plus, ce sont les enfants, le futur de notre pays. On va avoir une population qui souffre de carence.
Dans ce quartier dédié à la classe moyenne, les habitants se plaignent aussi de coupures d'électricité ou de coupures d'eau. Il faut aussi s'organiser à l'avance pour retirer de l'argent. Dans le centre-ville, une longue file d'attente encore s'étale devant les 2 seuls distributeurs du quartier qui disposent d'argent liquide ce jour-là.
Là, on avance plutôt vite. Ça fait une demi-heure que je fais la queue. Comme il y a des difficultés d'approvisionnement, tu as une limite de retrait. Aujourd'hui, c'est 10 000 bolivars.
Et vous pouvez acheter quoi avec ça?
Oui, je peux prendre juste un café.
Le Venezuela face aux pénuries et à l'inflation, un grand reportage de Marie Normand, réalisation Boris Vichit.